Evil Dead, c'est génial. Vous ne me croyez pas? Eh bien, préparez-vous, parce que ça va saigner.
Carte d'identité. Titre.
Evil Dead.
Genre.
Film d'horreur.
Réalisateur.
Sam Raimi.
Date de sortie.
1981.
Signe distinctif.
Transpire le sang, la sueur et plein d'autres fluides. Dans une salle de cinéma du Michigan, deux hommes de 20 ans à peine assistent bouche bée à la projection du chef-d'œuvre horrifique de John Carpenter, Halloween. L'un d'eux, Robert Tapper, se tourne vers son ami et lui demande s'il serait capable de réaliser un film aussi réussi qu'Halloween. Son camarade en doute, mais il est séduit par l'idée de mettre en scène un film d'horreur. Son nom, c'est Sam Raimi, et il s'apprête à faire une entrée fracassante dans le monde de la pop culture avec Evil Dead. Evil Dead raconte l'histoire de cinq amis qui passent un week-end dans une cabane perdue dans les bois. Ils y découvrent un magnétophone, une dague au design macabre et surtout le Naturum Demento, un livre écrit avec du sang et relié de chair humaine. Sa lecture va réveiller une puissance maléfique qui va prendre possession des malheureux et les transformer en démons. En 1979, Sam Raimi met en boîte Within the Woods, un moyen-métrage qui fait office de brouillon à Evil Dead. Avec ce petit film sous le bras, Raimi frappe à la porte d'avocats, de docteurs et autres dentistes qui acceptent de produire une version longue de son travail. Pas besoin d'un budget colossal. De La Nuit des Morts-Vivants à Massacre à la tronçonneuse, les plus grands classiques de l'horreur ont prouvé qu'un manque de moyens peut être compensé par une bonne dose de savoir-faire. Avec Evil Dead, Sam Raimi laisse exploser sa folie créatrice. Il utilise la caméra comme un prolongement de son corps et de son esprit. Travelling en vue subjective, zoom ultra rapide et images débulées impriment instantanément la rétine. Evil Dead est inventif, mais surtout, il fait peur. Vraiment très peur.
You will die like the others before you. One by one, we will take you.
Âme sensible s'abstenir, puisque le film se montre très généreux dans les effets gore les plus craspec. Décapitation, lacération et autres crayons plantés dans une cheville constituent cet opéra de la terreur. Malgré des effets spéciaux un peu kitsch, un jeu d'acteurs parfois douteux et un festival de faux raccords, la fascination ressentie face à ce cauchemar sur pellicule permet de faire abstraction de ces quelques défauts qui donnent du corps et du cœur à l'ensemble.
Shut up!
Evil Dead, c'est aussi la naissance d'une figure mythique de l'horreur incarnée par Bruce Campbell. Sorte de Jim Carrey de l'horreur, l'acteur prête ses traits élastiques à Ashley Williams, Ash pour les intimes. Loin du cliché du héros américain surpuissant, Ash est malgré lui le seul rempart face aux démons. Ash est maladroit, Ash a peur, Ash est humain. Une figure attachante, obligée de combattre ses anciens amis, qui lui feront subir les pires tortures physiques et psychologiques. En 1981, Evil Dead ne sort que dans une poignée de salles américaines. Le film est condamné à tomber dans l'oubli. Son salut viendra de Cannes et son célèbre festival. Projeté au marché du film, Evil Dead va terrifier les quelques privilégiés venus assister à la projection. Parmi eux, un certain Stephen King. Le maître de l'horreur propose alors à Sam Raimi d'utiliser son nom pour faire la promotion du film.
Stephen King, author of Carrie, said, Evil Dead is the most ferociously original horror film of the year. If you think he's kidding, see for yourself.
Evil Dead est une œuvre charnière du cinéma d'horreur. Un film puissant, chaotique et exaltant qui donnera naissance à deux suites, un remake, une série télé, des jeux vidéo, des comics et un nouveau film prévu cette année. Evil Dead a même ouvert les portes d'Hollywood à Sam Raimi, qui nous a ensuite gratifié d'une excellente trilogie sur Spider-Man, et ça, c'est vraiment génial.
Une carrière longue et riche, donc démarrée sur un coup de poker. Et avec nous pour en parler ce matin, il y a Fabrice Duwels. Bonjour.
Bonjour.
Réalisateur belge, cinéaste, pardon. Vous a retrouvé au cinéma récemment avec Inexorable, avec Adoration juste avant. Et surtout, vous êtes spécialiste du cinéma de genre que vous appréciez beaucoup. Et on a aussi Kamal Messaoudi dans le
coin
droit. Bonjour, spécialiste de pop culture, geek aussi en cinéma de genre. Alors messieurs, bienvenue. Première question, allez, s'il ne fallait retenir qu'une seule raison très personnelle pour chacun d'entre vous, pour laquelle ce film mais génial. Laquelle vous me sortiriez ? Qui s'y colle ?
Oh bah pour une c'est insuffisant. C'est un film. Enfin, il faut le remettre dans son contexte. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi, je pense que je suis plus âgé ici d'entre nous trois. Je l'ai découvert en VHS quand j'étais adolescent. C'est un choc. On se remet pas de Evil Dead comme de Massacre à la tronçonneuse.
Ouais.
C'est une époque très particulière. C'est l'époque des VHS. C'est l'époque des nasties. Ce qu'on appelait les nasties. Sam Raimi a eu pratiquement un procès. Hein. Il y a eu toutes ces VHS étaient condamnables en Angleterre à l'époque.
Ouais, le film a d'ailleurs été censuré.
Ah complètement, oui. Ouais. Donc ce film a été fait contre. C'est une histoire. C'est des copains.
Mm-hmm.
C'est des copains qui font un film contre un système.
Mm-hmm.
Un peu comme c'est arrivé près de chez vous, chez nous. C'est-à-dire que c'est une bande de potes qui se connaît depuis le lycée. Ils vivent tous les uns près des autres. Ils ont le même amour pour un certain type de bande dessinée, de contre-culture, et ils décident de faire quelque chose. Et donc, ils se sauvent comme ça, ils se sortent d'où ils sont, quoi.
Mm-hmm.
Et ça, c'est vraiment formidable. C'est un film qui provoque des vocations.
Ouais. On va y revenir d'ailleurs sur les vocations que ça a provoqué. Un film contre, donc Kamal, pour vous, pourquoi ?
Bah, moi, ce que je trouve fort, c'est un peu comme des Peter Jackson, en fait. C'est des mecs qui, comme on le disait, c'est des potes qui décident de faire des films. Peter Jackson, elle faisait le week-end, lui, je pense, ses films avec ses potes. Et en fait, ils avaient tellement de contraintes qu'ils étaient obligés d'être ingénieux. Alors, Peter Jackson, dans son cas, avec ses films d'extraterrestres, où les extraterrestres avaient la tête du four, du moule de sa maman, bah lui, en fait, comme il savait pas comment représenter, justement, ce fameux démon, bah, il utilise la caméra subjective. Et plus tard, alors qu'il avait, je sais pas, des centaines de millions de dollars pour faire Spider-Man, il utilise le même procédé esthétique. Et c'est ça que je trouve fort. C'est qu'avec de la contrainte, il crée une esthétique qui devient presque une norme dans le grand cinéma, grand public, quoi.
Ouais, mais
ça, c'est cool.
Par rapport à Peter Jackson, c'est-à-dire que Sam Raimi vient avant Peter Jackson.
Uh-huh, tout à fait.
Donc, de nouveau, par rapport aux vocations, c'est Sam Raimi ouvre une brèche absolument incroyable. À l'époque, le cinéma, il faut avoir fait de la sistana, il faut des moyens, c'est compliqué de faire du cinéma. Lui, il arrive, il a 19 ans quand il tourne.
Ouais, c'est fou. Hein.
Il a 19 ans, il est avec ses copains. D'ailleurs, le tournage a été épique, hein. Le tournage a été renversant, très cruel. Les actrices en parlent, elles ont vraiment souffert. La scène des bois, la scène du viol, enfin tout ça sont des scènes qui ont un peu impensable aujourd'hui à faire. C'est impensable. Il y avait pas d'eau, il prenait pas de douche, il vivait, il logeait dans la cabine, à même le sol.
Avec de la polenta et de l'acrylique sur le visage.
Et visiblement, ça fumait beaucoup sur le tournage, des vraies substances. Hein. Donc du coup, ils étaient des fois, il y a beaucoup de pellicules qui ont été jetées à la poubelle parce que c'était inutilisable.
Ouais,
tellement ils étaient défoncés.
Effectivement.
Ouais, et puis il y a tout le storytelling autour que je trouve pas mal parce que il y avait une histoire comme quoi Sam Raimi avait trouvé cette cabane qui a vraiment eu, effectivement, le mec qui a construit cette cabane était décédé une semaine après l'avoir construit. Alors on saura jamais si c'est vrai, mais c'est toute cette aura magique qu'il a créée, que je trouve très sympa, et ça reste encore un mythe où on ne sait pas vraiment.
Bah, voilà. La cabine, t'as la cabine qui est dans le Michigan, et puis après t'as les caves qui sont. Il y a la cave chez Robert Tapper.
Oui, c'est ça.
Dans le tennis,
et puis après t'as le cimetière qui est chez Bruce Campbell. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment un film qui est bricolé. C'est un film qui fait 350 000 ou 370 000 dollars. C'est un film qui est condamné. C'est-à-dire que les actrices qui jouent dans ce film n'imaginent même pas que le film va être vu partout. Enfin, sans Cannes et sans la VHS, ce film disparaît.
Ouais.
C'est simple, ce film disparaît. En fait, il se passe quelque chose et quelques années plus tard, bon, après la carrière de Sam Raimi, on la connaît aujourd'hui et Dieu sait si c'est quelqu'un d'absolument génial. Là, on peut peser le terme génial parce que c'est vraiment quelqu'un qui a un esprit créatif absolument incroyable. Mais quand il fait Evil Dead 2, il a 10 fois plus de moyens. il revoit son propre film et il en fait un slapstick, enfin une espèce de comédie à la Buster Keaton qui est, à mon avis, un sommet du genre, quoi, qui est vraiment autant le premier Craspec est dégueulasse, un peu comme Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper, c'est-à-dire le premier vraiment Craspec dégueulasse, il colle à la peau, il est
j'aime
horrible.
Bien ça, moi.
Et le deuxième Massacre à la tronçonneuse est drôlatique, oui. Vraiment comme le deuxième Evil Dead qui est un sommet de comédie burlesque.
Et c'est d'ailleurs une des innovations de Raimi, c'est qu'il va amener ce splatter comedy, donc cette comédie physique burlesque qui vient aussi du cinéma muet. Alors on parle souvent des Three Stooges qui est une de ses grandes inspirations, Buster Keaton aussi. Il va amener ce comique physique dans l'horreur, mais sans séquençage. C'est pas une scène d'humour, une scène d'horreur. Tout est entremêlé et ça, c'est complètement inédit.
Bah avec le génie de Bruce Campbell aussi, oui. qui vraiment, c'est une combinaison. C'est-à-dire, c'est vraiment Campbell, Sam Raimi. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe entre eux. Et si Bruce Campbell hache, le nom de son personnage est devenu aussi emblématique, c'est aussi parce que Campbell, enfin, dans la présentation, on parlait de Jim Carrey, mais on peut penser à Buster Keaton. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a une demi-heure où il est face à lui-même dans le deuxième, et il y a des moments où il se frappe la tête avec la main. Le combat avec sa propre main dans le deux est juste renversant, quoi. C'est-à-dire que si on ne regarde que ça, on se dit, mais c'est génial.
Ouais. C'est d'ailleurs étonnant. Bruce Campbell méritait une carrière tellement plus grande, au vu de ce qu'il fait. Même quand on voit plusieurs décennies que la série Ash vs Evil Dead, où il est incroyable, extraordinaire, on a l'impression qu'il n'a pas quitté son personnage. Il est habité, c'est bien écrit, enfin, c'est incroyable. Je trouve qu'il mériterait d'être encore plus visible, Bruce Campbell.
Effectivement.
Il n'a jamais vraiment voulu être acteur, c'est ce qu'il dit dans pas mal d'interviews. En fait, ça lui est tombé dessus comme ça. C'est-à-dire, ce film, enfin, il a dépassé en fait toutes les attentes de tout le monde. C'est-à-dire que, enfin, pour moi, il y a des exemples comme ça un peu partout dans le monde, mais près de chez nous, c'est arrivé près de chez
tout
vous.
Fait,
c'est vraiment une bande de potes qui, encore une fois, décide de faire contre. De pas faire comme tout le monde. Ils font un film dans leur coin, ils bricolent quelque chose, et puis d'un coup, il y a un succès absolument mondial qui s'empare du film, et qui, de nouveau, provoque des vocations. C'est-à-dire que, moi, je me souviens, et d'autres, voyant Evil Dead à 15-16 ans en VHS, tu te dis, mais moi, je veux faire comme ça. Sam Raimi, il a 20 ans, je veux faire comme ça, je veux faire ça, je veux partir avec mes potes et je veux faire des trucs comme ça.
On va rester là-dessus, justement, parce qu'il y en a un autre qui s'est dit exactement la même chose que vous, c'est un certain Tarantino.
In my generation of young guys, those were the two best movies made in our lifetimes.
I know. That was for me, Evil Dead 2, for sure.
Evil Dead 2 and Raising Arizona and the crazy way they shot it with all the camera doing all this stuff that we had never seen before.
With Three Stooges humor thrown into the most violent horror movie you'd ever seen. It was like taking the violence of the Three Stooges seriously.
Yeah, yeah. And both Raising Arizona and Evil Dead 2 just keep trying to top each other with their weird camera shots and whatever. If you're a movie mad young guy in your early 20s and you see Raising Arizona and you see Evil Dead 2 and you see that shooting style, it's like, well, what's the point of ever shooting any movie not like that?
I know.
All right. That seemed like, okay, a new shooting style has been developed and everything else looks old-fashioned by comparison.
Voilà, donc un nouveau style de filmer l'action vient d'être créé.
Avec quelqu'un qui sera au BIF, vraiment, qui est fondateur, en fait, c'est Barry Sonnenfeld. Barry Sonnenfeld va arriver au BIF. Bon, Barry Sonnenfeld était le chef opérateur des frères Cohen. Joel Cohen a participé activement, en fait, au montage de Evil Dead le premier. Ils sont devenus très amis. On voit vraiment la proximité esthétique entre les frères Cohen, en tout cas les premiers films, et Sam Raimi. Ils sont très très proches et Barry Sonnenfeld a vraiment inventé, que Sam Raimi a repris dans le Evil Dead 2, un langage qu'on voit dans Blood Simple ou dans Arizona Junior.
D'ailleurs, il y a un procédé, c'est la shaky cam qui a été inventée, je pense, pour le premier ou le deuxième. Pour le premier, il me semble. Voilà.
Premier,
donc, il y a aussi, comme on dit, cette espèce d'innovation technique qui vient de gens qui sont des bricoleurs, en fait.
Et oui.
Et donc, ils créent des procédés qui deviennent des esthétiques, qui deviennent peut-être des références aussi plus tard.
C'est ça qui est fou, c'est que si on découvre le film aujourd'hui, si on regarde le premier Evil Dead, qui est très artisanal, qui a ce côté,
j'aime bien, moi,
avec du stop motion, avec vraiment des inventions assez géniales. Il y a même presque un petit côté Méliès dans
absolument,
voilà,
mais
dans
Méliès et Harryhausen sont au centre vraiment des préoccupations esthétiques de Sam Raimi et de Tom Sullivan, la personne qui fait les SFX.
Ouais, effectivement. Et quand on le revoit, si on le découvre aujourd'hui, on a l'impression de voir le grand-père originel de plein de choses qu'on a revues derrière. Donc, c'est-à-dire que c'est un film séminal, déjà pour Sam Raimi, parce qu'il va continuer d'aller rechercher des motifs stylistiques ou de fond dans ce premier film, dans toute la suite. On va reprendre un exemple que tout le monde a presque vu, Spider-Man, la scène où le bouffon vert commence à William Dafoe commence à se parler à lui-même dans le miroir. on la voit déjà dans Evil Dead, on voit déjà Bruce Campbell face au miroir. Il y a plein de scènes comme ça qui font écho, mais c'est aussi un film séminal pour tout le genre, finalement. Donc, si on éclate Evil Dead sur la ligne du temps de tout ce qui a suivi, où est-ce qu'on retrouve des motifs d'Evil Dead dans des succès qui ont suivi? Quels sont les films qui ont été inspirés par Evil Dead?
Oh, il y en a beaucoup.
Quelques-uns, hein. Quand même.
Il y en a énormément. C'est comme Massacre à tronçonneuse. C'est des films qui sont vraiment, vraiment très, très emblématiques d'une époque. Bon, Massacre à la tronçonneuse, c'est les années 70. Evil Dead, c'est les années 80. On voit bien que les années 70, c'est post-Vietnam. Il y a un commentaire très, très fort sur l'Amérique de l'époque. Il y a un commentaire, on pourrait aller jusque-là. C'est-à-dire, c'est les années 80, c'est les années Reagan.
Oui.
Il y a quelque chose, il y a un commentaire politique aussi chez Sam Raimi qui le dépasse probablement. C'est-à-dire qu'il n'en est probablement pas conscient, et ses copains non plus. Mm-hmm. Mais on voit bien que aujourd'hui, bon, on est dans une ère un peu où le cinéma d'horreur est un peu plus cynique. Donc, on reprend des franchises et on les exploite. Et pourquoi pas, hein, mais disons que voilà, on voit bien que Evil Dead est partout.
D'ailleurs, Sam Raimi a même refait un hommage à son propre film qui est pas un Evil Dead, mais qui est Drag Me to Hell, qui est passé un peu à côté, alors que je trouve que c'est vraiment excellent parce que c'est une revisite un peu de notre univers qui pourrait être très proche de celui d'Evil Dead avec d'autres moyens où il met un personnage féminin central. C'est pas mal du tout. Le titre français, je sais plus ce que c'est, Drag Me to Hell, mais voilà, 2009, je pense.
Mais ce qui est vraiment intéressant à voir aujourd'hui, bon, le film est encensé, il fait vraiment partie de la culture pop, etc. Mais à l'époque, vraiment, encore une fois, le film a été attaqué sur des plateaux télé. Sam Raimi a été comparé à Goebbels, hein, alors qu'il est là. Non, mais on peut le trouver sur Internet. Hein, c'est vraiment affolant. C'est vraiment affolant. Donc la cabale moraliste et moralisante n'a pas changé, elle a évolué aujourd'hui sous d'autres formes. Mais effectivement, il y a toujours, en tout cas, ce qui est formidable avec ça, c'est que ça vient toujours de nulle part. C'est-à-dire, c'est toujours une bande de copains qui fait un film, qui bricole quelque chose et qui déboule et qui fait table rase, en fait, d'un certain establishing. Quoi.
Ouais, et ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, qu'on reprenne George Romero, qu'on reprenne Carpenter, qu'on reprenne Raimi, il y a toujours cette idée que le film d'horreur est un film contestataire de contre-culture. On n'y vient pas forcément par choix, mais on y vient soit parce qu'on sait que ça va faire vendre.
Par amour. Oui. À l'époque, c'est vraiment de l'amour, c'est l'amour du genre.
Oui.
C'est vraiment l'amour vraiment du cinéma de genre, enfin de genre. Ça ne veut rien dire le cinéma de genre, mais bon, c'est une autre histoire. Mais c'est-à-dire que c'est vraiment par l'amour du cinéma, le fait de bricoler. On parlait de Méliès et de Harryhausen. C'est ça, c'est vraiment l'idée de. Aujourd'hui, on est dans le tout digital. Il y a la pornographie du digital. C'est insupportable. Mm-hmm. À l'époque, il fabrique.
Il y a ce côté artisanal. Alors moi, je me sens, on rêvait tous quand on était petits de refaire des films. Oui. D'horreur, de zombies, des films à la Evil Dead avec nos vieux caméscopes, etc.
Ça.
C'était notre rêve ultime. Mm-hmm. C'était vraiment un but. Voilà, on voulait faire notre film d'horreur parce que c'était susciter l'émotion peut-être la plus évidente quand on est jeune. Je pense.
Mais il y avait quand même aussi une considération économique du fait que si on a peu de moyens, on va se tourner vers le genre qui permet le plus de loopholes, qui permet le plus d'inventivité. Et c'est souvent le cinéma d'horreur. Et ça pose quand même la question, finalement, combien ça coûte de faire peur au cinéma quand on voit que là, Sam Raimi et sa bande y arrivent avec très peu de moyens et que parfois, on a des films qui déploient une débauche.
Oui, mais tout le monde n'est pas Sam Raimi. Hein. tout le monde n'est pas Sam Raimi, tout le monde n'est pas Bill Friedkin ou tout le monde n'est pas Wes Craven. Enfin, c'est des gens qui font des. C'est toujours Wes Craven à l'époque. C'est aussi les histoires de Nasty. C'est toujours des combinaisons. Wes Craven est très proche de Sean Cunningham qui va faire les Vendredis 13. C'est toujours un mouvement contestataire en fait. Après, là, on est dans la période des hippies, etc. Mais c'est
avec des John, films. Hein. John Carpenter. Donc.
C'est ça, bien sûr. Bon, qui est un peu avant, mais en fait, c'est toujours des gens qui ouvrent des portes. Karine parlait de Peter Jackson.
Oui.
Vraiment, sans Sam Raimi, il n'y a pas de Peter Jackson.
Mm-hmm.
Il y a pas de Peter Jackson, il y a pas les Feebles, il y a pas Branded, il y a pas Bad Taste. Ça ne vient pas. Donc c'est toujours une espèce de domino comme ça,
c'est un passage de relais.
C'est un passage de foi et de relais et de passion. C'est-à-dire qu'on voit toujours aujourd'hui Tarantino quand il parle de certains ou d'autres parle avec tellement d'amour de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont reçu en fait.
Et quelque part part, quand un réalisateur devient quelque part connu, fait ses gros films, ses blockbusters, etc., moi, en tout cas, j'ai un peu ce sentiment. Je me dis, tiens, j'aimais quand même bien cette époque où il bricolait. Bon, c'est peut-être un sentiment. Ouais, je sais pas. J'ai ça avec notamment Edgar Wright, hein, qui avait exactement la même histoire.
Ils sont très proches, d'ailleurs, avec Sam Raimi.
Tout à fait, hein, avec son Shaun of the Dead, bon, qui avait quand même un peu plus de budget, mais il y avait ce côté bricolé. Puis dès qu'il passe vers des grosses sphères, on est un peu déçu comme ça. Ouais, mais c'est peut-être mon sentiment. Hein,
mais... Justement, bah Sam Raimi, aujourd'hui, il est plus à présenter. Alors, on cite sans cesse la trilogie Spider-Man. Il est rentré dans l'univers Marvel. Il a fait un Doctor Strange, dont d'ailleurs, il a expliqué récemment que le multivers de la folie, il est retourné s'inspirer d'Evil Dead pour aller là-dedans. Sam Raimi, aujourd'hui, quelle est sa place dans le paysage ciné? Est-ce qu'il a quand même gardé sa patte indépendante ou est-ce que passer du côté des super-héros, ça l'a adoubé dans une autre catégorie?
Ça reste un pape de la contre-culture. Mm-hmm. On pense ce qu'on veut. C'est aujourd'hui, le système a complètement changé. C'est-à-dire que la contre-culture est devenue la culture dominante. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui, à l'ère du tout Marvel ou du tout DC, que la culture dominante, et c'est celle-là aujourd'hui. Ce qui était dominant à l'époque dans les années 80 ou dans les années 70 n'est plus du tout à l'ordre du jour. C'est-à-dire que aujourd'hui, on fait un film d'horreur, ça peut propulser une carrière. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de cynisme. Mmh. À l'époque, c'était vraiment un acte de foi de faire du cinéma.
C'est pas ce que je raconte. D'ailleurs, quand on était petit, quand on jouait à Donjons et Dragons, qu'on aimait bien les films d'horreur, on nous jetait des cailloux. Alors que maintenant, ceux qui dominent Hollywood, quand on regarde Waititi, qui est quand même quelqu'un qui vient aussi du milieu de l'art contemporain, voilà, il fait des Thor, Sam Raimi fait des Doctor Strange. Donc tous, Peter Jackson qui faisait bon, Le Seigneur des Anneaux. Donc c'est eux qui détiennent Hollywood quelque part. Mmh. On se les arrache.
Ouais, les nerds d'hier sont les cool kids d'aujourd'hui.
C'est,
quoi.
C'est toujours. Hein.
Ouais. Oui, c'est toujours ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un de ces quatre, il y a un gamin ou une gamine de 20 ans, 25 ans qui va arriver, qui va débouler avec quelque chose de complètement nouveau. Et j'espère que ça va redistribuer les cartes. Mm-hmm. C'est dans l'ordre des choses.
Allez, Evil Dead à 40 ans. Dernière question pour la fin. Pour qui et pourquoi il reste inspirant ce film? En une petite phrase.
Oh, pour qui? Pour une génération, une génération, c'est intergénérationnel, mais je dirais la génération justement des nerds à qui on jetait des cailloux, qui sont maintenant justement devenus. Et alors, donc c'était pour qui et pourquoi?
Oui, pourquoi le revoir aujourd'hui?
Pourquoi le revoir? Parce que c'est un film témoin de son époque, avec justement très peu de budget et avec une esthétique qui était sous la contrainte, qui a donné une esthétique maintenant normale pour les gros films. Donc ça, je trouve ça cool de voir un peu la genèse de ce que la shaky cam. Mmh. Bruce Campbell, et puis plein de sang partout, fait avec des moyens du bord. Quoi.
Fabrice?
C'est un film de patrimoine, tout simplement. C'est un film important, c'est un film qui a marqué son temps, son époque, qui, encore une fois, a provoqué des vocations, qui a fait basculer l'industrie dans quelque chose, qui a permis, en tout cas, d'être débridé, d'oser des choses. Il faut entendre Guillermo del Toro parler du film ou d'autres, ou Tarantino ou Edgar Wright. Mm-hmm. Enfin, c'est un marqueur. C'est-à-dire, c'est un marqueur très très important. Et puis surtout, c'est un film qui a peu vieilli. C'est-à-dire, effectivement, il a ce côté un peu maladroit, mais il y a un tel amour qui se dégage de ce film que on peut pas être insensible à ça. Et vraiment, s'il y a des jeunes gens qui nous écoutent aujourd'hui, je pense qu'il faut voir le premier, effectivement, mais qui fait très très peur, hein, quelque part. Attention, c'est vraiment un film qui surprend. Magnifique. Mais le deuxième, il faut le voir aussi, parce que le deuxième, à mon avis, est techniquement encore supérieur. Bon, forcément, il a beaucoup plus de moyens, mais on voit que l'art, enfin, moi, je considère, c'est que mon avis, hein, c'est que c'est le meilleur film de Sam Raimi, c'est Evil Dead 2. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, à ce moment-là, il est vraiment, il a jamais retrouvé ce niveau de dextérité technique, en fait. C'est prodigieux. C'est-à-dire que ce film, c'est probablement le seul exemple de comédie burlesque horrifique au monde.
C'est vrai.
Il y a pas ça, enfin,
c'est vrai que c'est très particulier.
Ça touche au génie de Buster Keaton. Je le pense sincèrement.
Oui. J'aime beaucoup le 3 quand même. Bon, il était un peu plus comique, mais
qui est un tout autre délire, une fable médiévale où on repart dans le passé avec une tronçonneuse greffée au bras gauche. En tout cas, vous avez été dithyrambiques tous les deux, et si on a réussi à éveiller votre curiosité, eh bien retournez voir ou redécouvrir effectivement ce film de 80, Evil Dead de Sam Raimi. Ça peut vous faire reconsidérer tout ce qui a suivi sous un autre angle. En tout cas, merci à vous deux, Kamal Messaoudi, Fabrice Duhels, d'avoir été nous inviter ce matin dans C'est Génial.
La première,
9h-10h,
C'est Génial.